Transistor.
Et si vous, et si nous, prenions le temps? Le temps d'un portrait sans l'image mais avec le son, le temps d'une rencontre avec quelqu'un qui mêle sa vie à l'art. Sa vie, depuis presque deux décennies, Ananda Sapho la consacre en bonne partie à raconter des histoires en images. Depuis Some Girls, sortie en 2011, la réalisatrice a tourné une demi-douzaine de courts-métrages de fiction, dont le multiprimé Red Dolman, pour lequel nous l'avions reçu d'ailleurs, il y a quelques années. Elle a aussi réalisé près d'une douzaine de clips et plusieurs documentaires, dont le dernier, Nos âmes déracinées, était diffusé sur France 3 il y a quelques jours. Documentaire, fiction ou clip, qu'importe le format, il y a une même sensibilité, une même esthétique qui traverse ses films. Un regard singulièrement féminin, hypersensible et pudique à la fois, qui traque dans le réel la part de magie et de poésie dont il recèle toujours, si on sait bien l'observer. Bonjour Ananda.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous recevoir chez toi. On réalise cette interview. C'est ici à Laval, je ne vais pas citer l'adresse, que tu habites, mais aussi que tu travailles. En fait, on est à la fois dans ton lieu de vie, dans ton bureau, dans ton... Alors, je ne vois pas d'ordinateur, mais dans ton studio de montage,
sans doute.
Il est là, il est tout plat, il est plié. C'est là que tu écris tes scénarios, c'est là que tu réalises tes storyboards, que tu montes tes films.
Ouais, exactement. Enfin, la plupart, en tous les cas. Ça dépend des projets. Mais des fois, je suis ici en bas et des fois, je suis en haut.
Deux ambiances.
Je change d'ambiance en fonction de la journée. Mais oui, la plupart du temps, je suis là, ouais. Un petit peu comme un ermite.
Ouais, c'est ça. Il y a un côté grotte.
Un côté grotte, ouais.
C'est un métier solitaire, le métier de réalisatrice, de réalisateur de film, un peu comme pourrait l'être le métier d'auteur de BD ou de roman.
Ouais, mais en fait, ça dépend des étapes du projet.
Oui, c'est ça, c'est dans la phase d'écriture que...
Mais la phase d'écriture dure énormément de temps pour chacun d'entre eux. Donc du coup, oui, je passe beaucoup de temps renfermée ici devant mon ordinateur ou devant un tableau avec des post-it. mais j'aime aussi bouger, en fait. Ouais. Des fois, je me mets en autorésidence, je pars au bord de la mer ou je vais marcher pendant des heures et puis...
Te couper de ton quotidien pour trouver une autre forme d'inspiration
Ouais, puis c'est important. Voilà, ici, je m'occupe de mon fils aussi. Donc c'est important de couper un petit peu toutes les contraintes familiales et quotidiennes, on va dire, pour essayer de se focaliser sur un projet, oui.
Il y a ces phases solitaires d'ermite, comme tu l'évoques, puis à un moment, il y a le tournage. Et là, on est dans un bouillonnement. Le contraste est énorme.
C'est énorme, ouais. Avant le tournage aussi, tout ce qui est préparation du tournage, oui, ça bouillonne d'un seul coup, en fait. Donc, il faut pouvoir le gérer, en fait.
C'est ça. Il faut savoir à la fois être solitaire, supporter la solitude de l'écrivain, de l'auteur, et en même temps être hyper sociable. C'est ça.
Il faut, c'est ça.
Les deux facettes, il faut les réunir, quoi.
Le contraste est énorme. Ouais. Et puis après, il y a la diffusion aussi. Là, je suis plus dans cette phase-là en ce moment. Ouais.
Parlons-en, justement, puisque, effectivement, tu je l'ai dit tout à l'heure, tu sors ce film, Nos âmes déracinées, sur lequel tu travailles depuis 2018, peut-être.
Oui, c'est ça.
La date est bonne.
Ouais.
Et il sort là, ça y est, après 4 ans. Comment on vit ce moment-là, cet aboutissement-là? Et peut-être qu'on peut continuer le parallèle que je faisais tout à l'heure avec le travail de romancier, qui, une fois que le livre est sorti, finalement, c'est fini. Et contrairement à un musicien ou à un comédien qui, sur scène, a des retours du public, peut être dans un échange, une interaction. Vous, finalement, une fois que l'œuvre est sortie, les retours...
Surtout là, oui, où c'est en diffusion télé.
Ouais, en plus, voilà.
Heureusement, j'ai eu deux projections. Il y en a une troisième qui arrive bientôt, puisqu'il est pris, en fait, le film est sélectionné aux rencontres du documentaire de Mélionnec, là où il a été écrit, en tous les cas dans sa version documentaire. Donc, c'est bien, je vais pouvoir à nouveau voir un public. Mais non, il y a un côté hyper frustrant là, de la sortie télé. Ouais. À la fois, je me dis que c'est chouette parce qu'il est vu. En même temps, j'ai pas eu les audiences encore. Donc, je ne sais pas à quelle hauteur il a été vu actuellement. Par contre, j'ai eu des retours quand même de certaines personnes qui ont découvert le film et qui m'ont écrit.
Ça, c'est les réseaux sociaux qui permettent ça, peut-être.
Ouais,
et puis. Simplicité de de rapport, en fait.
Oui, c'est ça. Ils sont allés sur mon site, hein, tout simplement. Ils ont trouvé mon adresse mail et puis ils m'ont contacté.
Ah oui, d'accord, c'est
carrément
par mail.
Ouais. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire,
oui,
et qui vont jusqu'à me contacter. C'est sûr qu'il n'y en a pas énormément. Mais il faut vraiment qu'ils soient touchés par le film, en fait. Mais de façon intense, je pense, pour qu'ils qu'ils puissent faire ça. Après, oui, forcément, on a eu des partages sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté hyper frustrant vu le temps que j'ai mis pour faire ce film, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a un côté un peu baby blues.
Tu parlais
d'une phase un peu mélancolique là,
c'est
aujourd'hui.
Ça. Je suis dans la mélancolie. Ouais.
Le bébé est sorti.
C'est ça, il échappe. Alors ça, bon, c'est valable pour tous les films. Mais là, il m'échappe d'autant plus parce que je ne connais absolument pas les conséquences en fait de chez le public et en tous les cas je ne peux pas tout mesurer. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a storm. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
Harry Nilsson, Everybody's Talking, un titre extrait de la bande originale du film Midnight Cowboy que tu as choisi, Ananda, pour l'excellente raison qu'il te met toujours de très bonne humeur.
Exactement.
C'est une très bonne raison. Mais cette émission, on aurait pu aussi l'introduire par un extrait d'une autre BO, celle d'un film, du film La leçon de piano,
oui.
De Jane Campion,
oui.
Qui est un film fondateur pour toi. Tu écrivais que c'est un film qui t'a donné envie de faire du cinéma et qui aujourd'hui toujours te ressource quand t'as besoin de chercher justement une inspiration ou te ressourcer.
Oui, effectivement, il est dans les films fondateurs. Il n'y a peut-être pas que celui-ci, mais celui-là est particulièrement important pour moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent, et surtout en ce moment-là, parce que j'écris le premier long métrage, et quand je suis en écriture, pour me reconnecter un petit peu à mes personnages, etc., je mets souvent la BO de la leçon de piano.
Ouais.
Comme si c'était un peu un retour aux sources systématiquement.
Pour te remettre dans un mood.
Ouais, c'est me mettre dans une certaine ambiance. Mmh. Bon, la BO de Macadam Cowboy, ouais, c'est plus pour démarrer un petit peu la journée.
Ouais, c'est ça. Se mettre en jambes.
C'est ça. Ouais. Ça permet
tirer au soleil.
C'est dynamique et tout, elle fait du bien. Ouais. Mais c'est vrai que la leçon de piano, ouais, c'est assez fondateur. Bon, de toute façon,
tu l'as découvert à quel âge, ce film-là ?
Je devais avoir quoi, 15 ou 16 ans, je crois. Et je l'avais vu en salle. Et je me souviens, en fait, dans l'introduction de cette émission, tu mentionnais l'aspect peut-être poétique. Et il y a une sensualité qui est énorme dans ce film et qui m'a et aussi une dureté, quelque chose de très très violent en fait, mais qui est amené de façon presque douce et fluide et granuleuse. L'image aussi, j'adore la photographie de ce film.
C'est un contraste qui te plaît en fait.
Ouais, mais en fait, c'est un contraste sur lequel je travaille tout le temps. Alors, est-ce que c'est lié à ce film-là qui a été fondateur pour moi?
En tout cas, tu y retrouves ça. Cette sorte de contraste entre quelque chose de poétique et en même temps, on n'est pas dans l'angélisme, on n'est pas dans les bisounours.
Ah ben non, ouais, c'est ça. Sinon ça sert à rien, c'est pas la réalité non plus.
Tu cherches la poésie, mais en même temps, voilà, c'est la poésie, elle peut gratter aussi, elle peut être dure, elle peut bousculer aussi.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est ce qui, moi, en tous les cas, me motive à créer aussi. C'est d'essayer de chercher comme ça ce contraste-là. D'être à la limite de comment expliquer de ce contraste entre le à la fois la sensualité, la poésie et puis ce qui gratte comme tu dis. Ouais. Après j'irai jamais dans un truc, enfin il faut jamais dire jamais, mais dans un truc hyper violent.
Oui.
Là j'ai découvert Titane par exemple. Ouais. Elle a osé aller
qui a été primé à Cannes l'année dernière.
Ben en fait, ouais, enfin, Palme d'Or, quoi. Palme d'Or. En fait, elle a l'audace d'aller hyper loin et d'aller au maximum de jusqu'où elle peut aller.
Pousse les limites.
Elle pousse les limites de ce personnage féminin qui d'ailleurs se métamorphose. Et c'est vrai qu'il y a une violence physique quasiment où moi j'ai déjà du mal à être spectatrice en fait de ces violences-là. Mais je préfère lorsqu'elle est un peu plus fourbe en fait, je crois.
Plus insidieuse.
Ouais. La violence physique me parle moins que celle qui est plus, je sais pas, du domaine un peu psychologique ou...
C'est à ce moment-là, quand tu vois ce film-là, que tu te dis « Ouais, il faut que je fasse ça » ou comment ça grandit après ce... Bon, on peut utiliser le terme de désir, mais de cinéma qui naît à ce moment-là.
Par rapport à quel film?
Je reviens sur la leçon
de piano. La leçon de piano Oui, ben forcément, voilà, sauf que celui-là, il est sur un piédestal, hein, donc de toute façon, ce sera compliqué de l'atteindre.
Mais en tout cas, voilà, c'est à ce moment-là que tu te dis « J'ai envie de faire du cinéma, moi aussi, d'essayer de... raconter les choses.
Ben, j'ai non seulement envie de raconter des histoires, mais j'ai envie qu'elles restent, en fait. Et ce que j'aime, notamment dans le travail de Jane Campion, c'est aussi toutes les sous-couches, en fait. On sent qu'il y a, au-delà de l'histoire, il y a une ambiance, il y a...
Une épaisseur.
Une épaisseur, exactement. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je mets beaucoup de temps à travailler mes projets. C'est que je cherche cette épaisseur-là. Et ce qui me fait sourire quand quelqu'un vient me dire « Oh, j'ai remarqué ceci ou cela », alors qu'on m'avait dit que personne ne pourrait remarquer cette étape-là.
Ah oui.
Alors que si, parfois, il y a des gens qui peuvent me surprendre et me dire « Ah, j'ai remarqué cela ».
Le cinéma, tu vas commencer réellement à en faire à la fin des années 2000. Tu vas signer deux courts-métrages en 2011 et 2014, « Some Girls » et « Red Dolman », dont j'ai déjà parlé tout à l'heure en intro. Mais tu vas vraiment décider à faire du cinéma ton métier en 2016-2017. Là, tu laisses de côté tes activités alimentaires pour vraiment te consacrer au cinéma. J'imagine que ça a été un tournant, en tout cas une décision pas anodine, quoi, une prise de risque. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu?
Alors oui, après la prise de risque, j'en avais déjà prise une en 2009. Puisque j'avais quitté l'éducation nationale.
D'accord.
Donc, qui était, toujours un petit peu en filet de sécurité, puisque j'étais en disponibilité. Et effectivement, à un moment donné, j'ai dû, suite à différents aléas de vie, reprendre un travail un peu plus alimentaire, on va dire, et qui était quand même dans mon domaine, mais plus dans le domaine de l'entreprise que du cinéma.
Des vidéos institutionnelles.
Exactement, ouais. Et il a fallu refaire ce pas-là. En me disant, voilà, cette fois-ci, je franchis le pas définitivement.
Ça a été en deux temps. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, mais c'est dur, évidemment que c'est dur. Après, il faut aussi ce qu'il faut, c'est-à-dire que passer à la réalisation, c'est du temps, il faut que je sois entièrement disponible pour ça. Et d'ailleurs, ça n'a jamais autant évolué depuis que j'ai fait ces choix-là. Après, ces choix-là, je les remets en question régulièrement, forcément, parce qu'en plus, là, on sort quand même d'une période compliquée. Enfin, on sort, en plus, j'en sais rien, si on est vraiment sorti de cette période difficile. Mais du coup, forcément, il y a eu... Je crois que j'ai mis trois fois... J'ai remis trois fois en question mon métier en l'espace d'un an et demi. C'est parfois je me demande si c'est une utopie ou pas en fait. Donc il y a évidemment il y a des difficultés.
Le doute il perdure et en même temps tu as construit quelque chose depuis cette décision. Les films sont arrivés, il y a eu des projets, il y a eu aussi des soutiens qui sont arrivés, tu as fait de nombreuses résidences, tu as obtenu c'est une forme de reconnaissance aussi ça.
Ah oui, bien sûr.
D'être soutenu par différents organismes, de recevoir des aides du CNC, de trouver des producteurs qui portent des projets. Enfin, on sent que petit à petit, tu es en train de construire ton édifice, mais c'est un long chemin, quoi.
Ouais, c'est très long. Ouais. La lenteur est... Enfin, parfois, j'ai envie de baisser les bras, ben honnêtement. Oui. Et à la fois, toutes ces aides, tous ces soutiens, qu'ils soient des soutiens dès l'écriture du CNC ou des résidences, quand on sait qu'on est choisi parmi 1500 projets et qu'on est dans les 6, forcément, ça, voilà, c'est une forme de reconnaissance, oui. Et c'est matériel, en fait. Et à la fois, ça me permet, moi, d'avoir du temps en plus et d'être vraiment bien entourée pour mûrir les projets et pour les avancer. Donc oui, c'est une construction qui se fait sur le long terme, que j'ai toujours eu en visu, on va dire, mais auquel je n'avais pas accès au départ. Et là, maintenant, ça, c'est en place. Ça, c'est une certitude. Donc, ça me permet d'avancer encore plus.
C'est une satisfaction, quand même. Je veux dire, j'ai franchi cette étape. Mais voilà, là, c'est step by step et il y a pas mal de marches à monter.
Il y a encore énormément de marches à monter. Puis je me dis, en fait, c'est sans fin. Parce que quand je vois des grands réalisateurs qui ont construit... qui ont réalisé 10 films et qui aujourd'hui ont du mal à financer le 11e.
On entend souvent ça.
Voilà, c'est sans fin en fait. Là, c'est, pour le coup, on ne cherche pas à atteindre, je pense, ni les uns ni les autres, à atteindre un objectif.
C'est film après film.
Mais oui, c'est film c'est après film.
Projet après projet, essayons déjà de financer celui-là.
C'est ça. Il faudrait presque réussir à savourer chaque étape, mais c'est tellement compliqué aussi. J'ai du mal à le faire, en fait, j'avoue.
Voilà, en tout cas, c'est aussi beaucoup, au-delà du travail artistique, c'est aussi beaucoup de démarches, j'imagine, de recherche de subventions, de partenaires, de rendez-vous. Faut être armé aussi pour faire ça.
Ouais. Mais oui, je peux pas être... je suis obligée d'avoir la tête sur les épaules, quand même. Un réalisateur, il est entrepreneur, en fait, je crois, sous son nom. Moi, je me sens plus entrepreneuse qu'artiste aujourd'hui. Mais c'est valable pour plein de métiers artistiques, en fait. On est obligé d'être couteau suisse.
Derrière le romantisme de l'artiste cache la réalité, voilà.
Mais oui, il faut effectivement se plonger dans les dossiers, même si je tends à vouloir déléguer de plus en plus cette partie-là pour me concentrer vraiment sur l'artistique.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, je crois que sur... l'artistique ne prend même pas, je pense, aujourd'hui 50% de mon temps. Et j'aimerais être à 95%, quoi. Voilà.
Et en tout cas, il faut s'armer d'une grande conviction aussi. Voilà, justement, pour aller défendre des dossiers, pour souvent qui échouent. Donc, il faut reprendre son bâton de pèlerin pour aller en chercher d'autres. Enfin, voilà, il faut croire en soi, en ce qu'on fait et en ce pourquoi on le fait.
Ouais, mais il y a aussi une question de nécessité, je crois. Je pense que c'est plus du domaine du nécessaire pour moi et parce qu'il n'y a que ça, en fait, qui a un véritable sens dans mon existence, au-delà de mon enfant. Non, mais je veux dire, ça me porte vraiment et c'est là où je me sens mieux, en fait.
Je pense que sans cette nécessité-là, vu les difficultés, le parcours semé d'embûches que ça représente, je crois qu'on passe à autre chose.
Mais bien sûr, j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Et après, j'ai pas une confiance en moi absolue, mais par contre, le fait d'avoir ces retours-là, justement, d'avoir des soutiens, c'est ce qui me dit qu'il faut que je continue, en fait. C'est ce qui m'engage à continuer et à me dire « Ok, ça veut dire que ça parle à d'autres qu'à moi, en fait. » Parce que sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt si ça ne parlait qu'à moi seule. Voilà. Je ne le fais pas dans un trip égocentrique non plus, quoi.
Alors, construire sa carrière, entre guillemets, c'est un long chemin, comme on disait. Mais faire un film en soi, c'est aussi un long chemin. Mmh. Surtout quand on s'engage dans un projet de long métrage, comme celui qu'on a déjà un peu évoqué, ce documentaire, Nos âmes déracinées. C'est un projet dont l'idée est germe quand on parlait 2018 tout à l'heure.
Ouais. Elle est même née avant ça. Elle est née il y a 15 ans, cette idée-là.
Ok.
Parce que j'enseignais, en fait, à des enfants primo-arrivants.
D'accord.
Je crois que c'est le dernier poste que j'ai eu dans l'éducation nationale, d'ailleurs. Et j'ai enseigné le français, du coup, à des enfants qui venaient de pays du monde entier. Et il y a eu des rencontres, notamment une qui m'a vraiment marquée au point de me dire « Ok, je le garde dans un petit coin de ma tête et un jour, j'en ferai un film.
» Et comment, si on reprend cette question de comment se monte un film, comment ça se construit en termes de recherche de financement, de partenariat, quel temps ça prend pour se dire « Là, ça y est, c'est bon, j'ai une assise suffisante pour me lancer dans un tournage. »
Ben déjà, ça prend des années, enfin, en tous les cas pour ce type de projet, puisque là, je filme des enfants qui sont en situation de migration, donc des enfants qui grandissent, qui sont dans une situation provisoire. Et du coup, rien que pour essayer de filmer ces enfants-là sur un temps donné, ça prend énormément de temps en amont, en préparation, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un long process, surtout qu'au départ, c'était une fiction. Les producteurs m'ont fait comprendre qu'en fait, c'était beaucoup plus percutant de traiter ce sujet-là en format documentaire. Donc, il a fallu que je me décide à aller à nouveau vers le documentaire pour traiter ce sujet-là. Et ensuite, je me suis lancée, ouais. Et donc, oui, il a fallu du temps, mais j'ai été entourée. Hein,
Dès le départ, tu avais une équipe de production ?
Elle est arrivée assez vite. En fait, à partir du moment où je me suis décidée de faire en format documentaire, là, les productions, oui, j'ai été très entourée tout de suite.
Alors, avant d'évoquer plus en détail ce film, voici un extrait sonore, une histoire de l'entendre un peu et de s'y plonger.
Dans le refrain, elle dit « Let me be a woman », « Laisse-moi être une femme ». Ça veut dire quoi, ça, pour toi ?
Bah, laisse-moi vivre. Libre, laisse-moi vivre ma vie, je sais pas, laisse-moi être femme, une femme, libre, sensible, et faire ma vie.
Là, tu vois, quand t'as dansé là, c'est exactement ce que j'ai ressenti, ce désir de vivre et d'être libre. Tu peux te regarder et dire « Ouais, j'assure. Bah ouais, j'assure. » T'exerces cet art parce que t'as quelque chose à sortir de toi-même, parce qu'il y a une nécessité de s'exprimer et de dire « Je suis une femme, j'ai envie de me sentir libre. » Et ça passe par le corps, ça passe par la danse. Regardez-moi quand je parle. Personne n'a le droit de parler à ma place. Je m'appelle Jassira, j'ai 12 ans, voilà comment je suis et comment je m'affirme à un moment donné dans cette société. Prends ta place, Jassira. Prends ta place dans ce monde-là. Tu le mérites. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. T'as le pouvoir d'être, de devenir celle que tu as envie de devenir. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ouais.
Demain, il y a école ?
Extrait du documentaire « Nos âmes déracinées ». Il est extraordinaire, ce passage, ce dialogue entre Jassira, l'une des principales... principaux personnages de Nos âmes déracinées, et ce chorégraphe, professeur de danse, Mourad Elmrini. On pourrait presque croire que c'est écrit, en fait, tellement c'est bien dit, tellement c'est ressenti, tellement c'est juste, ces propos, je trouve.
Ben, en fait, c'est là où tout l'intérêt du documentaire, c'est de choisir aussi les personnes. Alors, soit de choisir les personnes qui vont intervenir dans le film, et justement, là, face à ces enfants-là, ou bien laisser le réel nous surprendre. Et en fait, pour le coup, pour Mourad, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Jassira est très douée en danse, sauf que Jassira, elle danse pour du TikTok, quoi. Voilà, avec ses copines. Ouais. Notamment là, on la voit beaucoup danser avec Anaïd, ça fait partie de sa vie. Elle danse aussi en famille. Et on sent que ça fait partie, c'est culturel en fait, ça fait partie de sa vie, de la vie de sa maman, ça fait partie de la vie même de sa toute petite sœur. Enfin, oui. On sent qu'elle est très à l'aise avec son corps, etc. Sauf qu'elle n'en fait rien aujourd'hui, en même temps elle a 12 ans. Mais l'intérêt, c'était justement d'essayer de la confronter à un regard un peu professionnel. Et donc moi, dans mon rôle de réalisatrice, j'ai essayé de chercher comment est-ce qu'elle pouvait être confrontée en fait à ce regard-là. Donc j'ai commencé à contacter, en fait on a cherché des cours de danse qui pouvaient l'accepter à cette période-là de l'année, on n'a pas trouvé. Après j'ai cherché des stages et puis on a fini par trouver voilà Mourad qui était surmotivé par le projet. Et Mourad, il a cette capacité, cette faculté à positiver les choses et à pousser les jeunes, en fait, vers leurs rêves, en fait. Et je trouvais que c'était tellement important, mais parce que lui-même, déjà, il est né, il vient d'Alon, il a été jusqu'à s'offrir le rêve, en fait, d'être coaché par les coachs de Michael Jackson et de Madonna, parce que c'était ses idoles. Et en fait, il est allé jusqu'à la réalisation de ces rêves-là. Et en fait, maintenant, il est revenu au pays, comme on pourrait dire. Il est revenu à Alon. Et il est dans un désir de transmission par rapport à ces jeunes. Et là, il a juste un rôle fondateur. Je ne sais pas si Jassira, à 12 ans... gardera ça en elle longtemps, mais je pense qu'en fait là, cet extrait-là, clairement, on aimerait tous l'avoir, enfin, l'entendre une fois dans notre vie, ouais, en fait.
Ouais, c'est un message fort qui lui passe, une leçon de vie forte. Ce film, il est écrit dans son générique, et tu l'as dit tout à l'heure en parlant qu'il est né d'une rencontre avec un enfant serbe, Léon Youssoufi.
Oui.
C'est lui qui a planté la graine de ce film-là.
Exactement, ouais. Léon, c'est un enfant qui avait 12 ans, justement, l'âge de Jassira dans le film-là, et qui n'avait jamais été à l'école. Et il avait... en fait, en lui, il y avait une sorte de contraste énorme d'une douleur par rapport à ce qui s'était passé en Serbie, puisque son père, notamment, s'était fait massacrer devant ses yeux. Donc, c'était très, très dur. Sa mère a économisé pendant plusieurs années pour fuir la Serbie et arriver en France. Et leur arrivée en France, évidemment, a été assez chaotique. Et à la fois, lui, ce môme-là, il avait une sorte de désir de survie, mais absolument incroyable, surtout arrivé à l'école à 12 ans, alors qu'il n'avait jamais été à l'école, qu'il n'avait jamais été confronté à ces règles-là. Il était tatoué, enfin, il avait un...
C'est un petit sauvage.
Ouais, c'est ça, il avait un tempérament complètement fou, et à la fois, il était mais, d'une vitalité d'esprit, il était rusé... incroyable. Et il a réussi à comprendre et à maîtriser les codes assez vite.
Ouais, c'est ça.
Et il a appris le français en 2 mois. Et en fait, là, il est parti aussi vite qu'il est arrivé, quoi. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, OK, on est capable de les accueillir comme ça sur un temps donné. Et puis d'un seul coup, poum, tout s'efface, tout disparaît. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Et il est passé, il est parti d'un foyer pour sans doute en récupérer un autre. Voilà, et on n'a jamais su où il était. Et ce contraste-là, très fort chez cet enfant, je le retrouvais chez les autres, peut-être de façon moins importante, mais en tous les cas, ça a germé. Et j'ai décidé d'en faire effectivement un film.
C'est quoi dont tu veux parler ? C'est de ces vies, justement, sans attache qui, ces enfants vivent, et aussi parler de cette faculté d'adaptation qui est incroyable, qu'on voit dans le film aussi, à quel point ces filles, Jassira, même le garçon, Sayaf, comment ils s'adaptent très très vite à un environnement qu'ils connaissent pas, ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, c'est ça dont tu voulais parler.
Oui,
et d'autres choses peut-être.
En fait, c'est comme si nos âmes déracinées, c'était un peu l'idée, c'est que en fait, on a l'impression que où que l'arbre soit planté, il va s'enraciner à nouveau. parce qu'ils ont cette capacité-là, que les parents n'ont pas forcément. Enfin, même si c'est pas vrai, parce que en fait, de changement de territoire en territoire, ils arrivent quand même à s'adapter assez vite, mais beaucoup moins vite que les enfants. Parce que les enfants, en plus, eux, ont la capacité d'apprendre la langue très rapidement.
Ils la parlent trop bien, quoi.
Ah non, mais c'est ouais. assez incroyable. Ouais. Et ça, oui, ça va à une vitesse folle. Et effectivement, je voulais montrer cette transition-là, dans, à la fois dans leur capacité de s'adapter, de saisir la vie aussi, et de ces nouvelles chances, ou pas, parce que Saya fait justement dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il décide de ne pas saisir cette chance, enfin, il n'arrive pas à la saisir.
Dans une lutte intérieure.
Exactement, ouais, et dans ces combats intérieurs très très forts.
Ouais, c'est très visible.
Et parce que c'est une réalité aussi, c'est-à-dire que certains enfants n'arrivent pas à saisir cette chance-là. Ouais. Et ils sont aussi dans leurs imaginaires d'enfants, ils ont dans leurs préoccupations d'enfants, et on leur demande de grandir très vite, et souvent beaucoup plus vite. Ils ont une maturité beaucoup plus importante que des enfants de leur âge, en fait.
Ouais. Ouais.
Et à la fois, je trouvais que c'était aussi nécessaire de parler de la rupture à nouveau pour ces enfants-là, c'est-à-dire qu'on leur fait comme une sorte de promesse qu'ils saisissent tout de suite, ou difficilement, mais en tous les cas, ils arrivent à se reconstruire à nouveau, parce qu'en fait, ce qu'ils demandent, c'est une maison, c'est des choses assez simples, hein, d'aller à l'école, d'avoir des copains, de jouer, de garder une forme de liberté. Et après, malheureusement, les choses, voilà, ils ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, et à un moment donné, ça risque de s'arrêter. Et ça, c'était nécessaire d'en parler. Oui.
Il y a une sorte de suspense comme ça, effectivement, dans le film, sur l'issue. Sur l'issue de leur présence en France, de leur présence dans cette cité à Allonne où tu as filmé. Effectivement, le film est assez. On pourrait croire, là, quand on en discute, qu'il pourrait être plombant ou triste. Mais au final, non, il est plutôt léger, je trouve, et joyeux parce qu'on est, porté par la vitalité des enfants, des personnages. On est touché aussi par la complicité qu'il y a entre les deux personnages, les deux filles. Jassira l'angolaise et Anaït l'arménienne qui ont une vraie complicité. Donc, tout ça, on est porté par le film, mais effectivement, en même temps, il y a une sorte de suspense, pour prendre un terme de cinéma, qui crée aussi justement une attention différente à ce qu'on regarde.
Mmh, exactement, ouais. Mais déjà, on sait ce qu'elles ont vécu et pourquoi elles se retrouvent ici.
Donc, du coup, le bagage est lourd déjà.
C'est ça, le bagage est lourd et il est imposé dès le départ. Et du coup, on sait que ces enfants-là restent des enfants et qu'elles vivent leur enfance comme n'importe quel enfant, sauf que le bagage est là. Et que ça, il ne nous quitte jamais. Et où on sait aussi que la décision est en attente. Mmh. La décision du droit d'asile des familles, que les familles ont demandé, est en attente. Et du coup, c'est vrai que malgré tout, il y a une forme de légèreté et de joie de vivre qui est omniprésente, je crois, sur la totalité du film, parce que c'est la réalité de ces enfants-là, en fait, tout simplement.
Comment t'as trouvé ces enfants? Pourquoi t'es allé filmer là-bas, à Allonne, dans cette cité qui est près du Mans?
Alors,
comment t'as fait ton chemin jusque là-bas pour trouver ces personnages assez extraordinaires? Enfin, c'est vrai qu'on se dit, tiens, comment elle est tombée sur ces enfants, sur ce slammer dont on va parler tout à l'heure, sur ce chorégraphe, comment ça s'est fait
Alors c'est plusieurs circonstances, on va dire, certaines qui ont été provoquées, d'autres où c'est le réel qui s'est imposé par lui-même. En fait, quand j'ai commencé à lancer le projet, je me disais pour mon objectif était que les enfants oublient la caméra et qu'on soit vraiment en immersion avec eux. Et rien que pour accéder à ça, c'est un énorme travail. Et je me suis dit, comment est-ce que les enfants peuvent oublier la caméra? Ben, tout simplement en les habituant à vivre avec une caméra. Et donc, j'ai monté des ateliers. Enfin, mon premier objectif, avant même de rentrer en
cheval
sondage,
de Troie.
Ouais, mon cheval de Troie était effectivement de monter des ateliers avec les enfants. Et du coup, de faire des ateliers de cinéma documentaire. Et donc, j'ai mis ça en place avec Viviane Chaudon, qui était une des productrices qui m'a accompagnée dès le départ, et sa structure Kaani Film, qui est habituée, voilà, à faire avec passeurs d'images Des ateliers, dans
là,
les écoles.
Là, vous placez les enfants derrière la caméra, en fait, comme exactement. En situation de réaliser eux-mêmes des documentaires.
Exactement. Okay. Et en fait, l'idée, c'était que la démarche documentaire fasse intégralement partie de leur existence et qu'ils fassent rentrer la caméra à la maison ou des enregistreurs sonores, parce qu'au départ, nous n'avons travaillé que le son avant de travailler l'image. Et du coup, non seulement eux devenaient des documentaristes, mais en plus, du coup, ils avaient conscience aussi de ce que ça allait donner. C'est-à-dire qu'on projetait les films et ils découvraient d'autres films aussi. Je me souviens notamment de Spartacus et Cassandra, qui est un documentaire avec des enfants. Donc, on leur a fait découvrir comme ça des films. Et ce qui a permis comme ça de rentrer... parce que c'est beaucoup plus simple pour un enfant de faire un atelier d'initiation, par exemple, je sais pas moi, au cinéma d'animation, parce que ça fait partie de leur vie. Mmh. Ils regardent des dessins animés. Alors que là, le documentaire, c'était quand même assez loin de leur vie. Et donc, il fallait qu'ils comprennent qu'on allait filmer le réel, etc., etc. Donc, ça a commencé comme ça. Après, Antoine Glimin, qui est exploitant au Vox, voilà, qui...
à Mayenne,
exactement, m'a aidé à lancer le développement du projet, persuadé qu'il fallait voilà, m'aider. Et Viviane, à ce moment-là, m'a dit, écoute, il y a Alon, voilà, il y a ce lieu. Alon, va voir, si tu veux, on y va ensemble. Et donc, j'ai découvert la ville avec un contraste saisissant entre les tours de béton et la nature omniprésente. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle le contraste de ces enfants-là que je cherchais. Et donc, on a monté ces ateliers-là à Alon. Voilà. Mais ça a été très long parce qu'il a fallu que j'aille voir les structures, disons, sociales, le CADA, Tarmac, etc., Culture du Cœur, pour leur expliquer mon projet, pour leur dire, je cherche des enfants qui sont arrivés sur le territoire il y a moins d'un an. Et au départ, j'ai senti des réticences, en me disant, mais oui, mais vous savez, ces familles-là, leur priorité, voilà, c'est pas ça, en fait. Donc, faire un film avec ces enfants-là. Et en fait, le fait de lancer les ateliers, ils ont compris aussi l'intérêt pour ces familles de vivre autre chose, en fait, que ce quotidien qui était difficile, qui était compliqué, voilà, qui était lourd à porter. Ouais, c'est ça. Ça offrait aux enfants une possibilité de faire autre chose, en fait, parce qu'ils n'avaient pas forcément accès à différentes activités à leur arrivée. Ils étaient scolarisés, évidemment, mais par contre, au-delà de ça, c'est vrai qu'ils restaient beaucoup à la maison, ils n'avaient pas de vie sociale, pas encore, en tous les cas, et du coup, ça leur a permis, comme ça, de créer un rendez-vous, en fait.
Mais en tout cas, c'est vrai que ce que tu dis sur le fait que la caméra est oubliée, c'est vraiment frappant. Enfin, c'est vraiment, moi, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est... Ils se comportent jamais, les personnes qu'on voit à l'écran se comportent jamais par rapport à la caméra, en fait. On a l'impression qu'elle n'est pas là. Et c'est vraiment très, très frappant dans le film, et ça renforce, je trouve... Et ça fait lien à ce que tu disais au départ sur ce projet qui était une fiction. Ce côté caméra absente dont personne n'est conscient à l'image renforce la dimension fiction que finalement on a l'impression de voir parfois. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, mais je suis en train de regarder un documentaire ou une fiction, parce qu'il y a cette absence de conscience de la caméra, il y a un travail sur les cadrages, sur la lumière, sur le montage qui a dû être énorme pour créer justement une fluidité dans les... Dans les dialogues, dans les situations comme elles s'enchaînent. Est-ce que c'était un but, justement? T'as pas abandonné dans un coin de ta tête l'idée de faire une fiction? Tu l'as transformée, en fait?
En fait, c'est drôle. C'est une hypothèse. Non, mais c'est drôle parce que, justement, pendant très longtemps et jusqu'au bout du projet, le film était écrit comme un docu-fiction. Et notamment, j'avais en tête l'idée d'essayer de représenter, par exemple, les terreurs nocturnes des enfants. Et des cauchemars qui revenaient pour essayer d'expliquer leur trajet, en fait, leur trajectoire migratoire. Et en fait, ça a été complètement balayé au fur et à mesure, parce que le réel s'est tellement imposé, et le travail...
Il n'y avait plus besoin.
Ben voilà, il n'y avait plus besoin. Ouais. Et notamment, je pense à l'engueulade entre Jassira et Anaït, qui, à un moment donné, elles oublient totalement qu'on est là, quoi. Et elles vivent juste leur vie de pré-ado.
C'est rare de pouvoir se retrouver quelque part dans cette situation, d'observer d'aussi près
les enfants.
Cette relation-là, c'est hyper touchant, je trouve, d'être là au milieu de ça et de constater ça, et effectivement de voir qu'elles ont complètement, elles sont juste dans leur, à ce moment-là, dans leur dispute.
Exactement.
C'est un moment fort du film.
Après, c'est lié, voilà, à ces à ces ateliers-là, au fait que ben, sur 10 enfants au départ, il en reste 3 dans le film, parce que j'en ai suivi 10 fratries au tout début du projet. Et là, à l'arrivée, il y en a 3, et c'est 3 personnages qui portent quelque chose aussi, parce que ils dégagent tous quelque chose, enfin les 3 dégagent quelque chose de très singulier.
Oui. Il y a dû avoir énormément de rush et du coup énormément de choix à faire. Je ne sais pas combien d'heures tu as filmé pour arriver à ça, en tirer une substantifique moelle qui dure 52 minutes.
Ouais, ça a été très dur d'ailleurs de faire un 52. Le bout à bout de toutes les séquences, etc., faisait déjà 3 heures. Alors, pas les rushs, parce que les rushs, je pense que c'était exponentiel. On a mis je ne sais combien de temps à tout dérusher d'ailleurs avec le monteur. Mais le film aurait pu faire facilement 1h30. Et il a fallu tenir sur un format de 52 minutes. D'ailleurs, j'ai des personnages qui ont sauté au dernier moment, en fait. On s'est dit, on ne tiendra jamais sur 52 minutes.
C'était le format qui était imposé par France 3, qui produisait le film et qui le diffusait, et qui a des cadres très, très précis.
Oui.
Je disais tout à l'heure qu'il y a un côté léger, en tout cas joyeux dans ce film, et lumineux aussi, et qu'incarne aussi ces deux personnages adultes, en fait, que sont... Mourad, le chorégraphe dont on a déjà parlé, qui vraiment est dans une forme de transmission très très forte par rapport aux jeunes qu'on voit encadrer. Enfin, c'est touchant aussi cette manière qu'il a de vraiment donner quelque chose. Et puis il y a ce personnage aussi, je mets entre guillemets puisque c'est quelqu'un qui existe, Marc-Alexandre Ohobambé, qui se présente sous le nom d'artiste Capitaine Alexandre. Et lui, c'est pareil, c'est un personnage, une sorte de sage comme ça, qui scande le film, parce qu'il n'est pas simplement que personnage dans le film, il n'apparaît pas simplement à l'image, il a aussi la partie narrative, en fait, du film, très poétique. C'est pareil, c'est une découverte. Quand tu l'as découvert, tu t'es dit « Oh là, attention, là, je tiens quelque chose ».
Exactement. Ouais. Alors là, ça s'est fait un peu...
Et lui aussi, il a un rôle de passeur très fort.
Lui, pour le coup, il n'est pas alone au départ. Hein.
D'accord.
Là, l'objectif, c'était de... Effectivement, moi, je ne me sentais pas légitime, en fait, à porter la narration de l'exil, en fait. Et je cherchais comme ça une sorte de dimension un petit peu parallèle qui mette le spectateur un peu sur la voie. Et en fait, Capitaine Alexandre, je l'ai rencontré à Bordeaux lors d'un concert, puisque j'étais en train de réaliser un clip pour un autre slammer qui s'appelle Magja. Et du coup, ils faisaient une scène ensemble juste avant le tournage du clip. Hein. Et lorsque j'ai découvert le travail de Capitaine Alexandre, je me suis dit, c'est lui qu'il faut pour le film. Il a fui le Cameroun à 17 ans. Il se retrouve aujourd'hui chevalier des arts et des lettres. Il a eu le prix Paul Verlaine. Enfin, une multiple récompense pour sa poésie, ses textes. Il est romancier aussi. Il ne fait pas que du slam. Et il a comme ça cette capacité à pousser les murs, en fait, et à nous conter d'une façon hyper singulière l'exil. Et c'était lui qu'il fallait pour ce film, oui.
ce morceau signé par Sylvain Texier, un musicien avec lequel tu collabores depuis tes débuts, Ananda. C'est un morceau qui est extrait de la bande originale de Jouir en solitaire, entre parenthèses, réalisé en 2021 et qui fait en ce moment le tour des festivals de courts-métrages, donc en pleine actualité aussi pour toi.
Oui, exactement. Alors là, on change totalement de sujet.
Changement,
hein.
Changement d'ambiance.
Parce que nous étions dans l'enfance et la migration et nous passons au plaisir féminin. Et effectivement, donc pour revenir à Sylvain, on collabore, je crois, depuis 2009.
Tu avais réalisé un de ses premiers clips avec son projet de Last Morning Soundtrack.
Exactement. Voilà. Et depuis, c'est vrai qu'on continue régulièrement à travailler ensemble. Là, je l'ai contacté parce que ce projet est assez particulier.
Ouais, c'est donc un drôle d'objet, Jouir.
Oui, hein. c'est un objet, c'est ça. C'est un peu un
documentaire
ovni.
Animé
oui,
de
c'est
11
ça.
Minutes qui s'est créé comme ça sur le tas, en fait, pendant le confinement, je crois.
Ouais, en fait, on parlait tout à l'heure de temporalité très lente pour faire un film. Et là, suis allée en façon punk, guérilla. En fait, le confinement a fait que, et la situation sanitaire a fait que j'ai eu des projets qui se sont arrêtés, ou en tous les cas, même si j'ai eu la chance qu'ils ne soient pas suspendus totalement ou mis au placard.
Les tournages ne pouvaient pas se faire, enfin bon, voilà.
Voilà, donc j'ai quand même réussi à continuer à tourner un peu Nos âmes déracinées en parallèle, mais bon, c'était quand même bien
ralenti. On voit des masques
ralenti.
De temps en temps. On voit des masques de temps en temps dans le film, effectivement.
Exactement, ouais. Et du coup, j'ai eu une sorte comme ça d'énergie démultipliée où j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie d'avoir l'impression d'avancer.
Avec la rivière trouve un chemin, là.
C'est ça. Ça a explosé de partout et il fallait vraiment, vraiment que je fasse un film. Et en fait, Arte a lancé un concours, bon, qu'on n'a pas gagné, hein, mais peu importe.
Ça a été le déclencheur.
Ça a été le déclencheur, ouais. En fait, je réfléchissais en parallèle d'un autre projet sur lequel je suis en train de travailler à un format documentaire en parallèle d'une animation qui est en réalité virtuelle, donc d'un projet que je mène depuis déjà des années.
369, on y reviendra un petit peu.
Exactement. Et du coup, en parallèle, l'idée avec ma production avait été d'éventuellement faire un documentaire associé au projet sur le plaisir féminin. Et Arte lance ce concours en décembre. On avait 2 mois, je crois, pour faire le film. Et je me suis dit, oh là, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois quand même. Et je commence à me dire, ok, j'y vais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'y vais. Allez, soyons fous jusqu'au bout. Je me lance. Et en fait, nous avons mis 4 mois exactement à faire le film. Heureusement, Arte avait décalé les dates parce que je pense qu'ils s'étaient rendu compte eux-mêmes que 2 mois, c'était beaucoup trop court.
Et du coup, le sujet, le plaisir féminin, c'est un sujet que tu filmes, en tout cas que tu présentes dans ces 11 minutes sans tabou, mais qui est un sujet tabou dont on parle pas, dont le cinéma s'est pas beaucoup emparé, parce que le cinéma c'est un truc de mec quand même, que les cinéastes masculins, c'est pas un sujet qu'ils ont filmé, et il était temps de s'en emparer, non, parler de ça et de le présenter, que des femmes en parlent, enfin je sais pas, est-ce que c'est ça qui te motive dans ce projet là, enfin
Oui, en fait, au départ, c'est vraiment une démarche de comment essayer de représenter ce qui n'est pas représentable. D'accord. Et ce qui n'a jamais été représenté. Et notamment, l'orgasme féminin, comment est-ce que je peux représenter, essayer de donner une sorte de figuration à une représentation, d'essayer de chercher comme ça la métamorphose de ces sensations. Comment est-ce que je peux représenter ça? Donc ça, c'est un peu mes recherches personnelles, de mon métier, qui veut que je tends comme ça. J'ai des sortes de comment on pourrait dire, des obsessions,
des
comme
lubies.
Ça. Voilà, des lubies. Et je cherche depuis longtemps, en fait, de me dire, voilà, comment est-ce que je peux représenter ça? Donc ce qui a donné lieu à ce projet 369, et en parallèle à ce documentaire-là.
Donc là, tu allais demander, en fait, tu as recherché des témoignages.
Oui, j'ai recherché des témoignages.
Alors c'est ça, la base.
Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de parler, donc là, pour le coup, du plaisir en solitaire féminin. Tout simplement parce qu'Arte, quand ils ont lancé le projet, c'était besoin de personnes, la
D'accord.
thématique du
okay,
concours.
Donc c'est ça qui vous orientait.
C'est ça qui m'a orientée, sachant que j'étais déjà dans la recherche du plaisir féminin. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, du coup, le court-métrage sera sur le plaisir en solitaire.
Ok. Focus,
voilà. Et du coup, j'ai cherché effectivement les témoignages féminins intimes. Ça n'a pas été si simple à trouver que ça, au début en tous les cas. Et sur ces voix féminines, donc réelles, ont été créées par 24 animateurs en tout, des animations qui mettent en... d'une façon assez poétique, si je puis dire. qui représente en fait un petit peu et illustre ce qui est dit.
De ce défi-là, de ce pari-là, en fait, est né un projet, un film qui existe et qui aujourd'hui a une vie. C'est ça qui est génial, c'est que tu t'es lancé un peu en mode on y va, on verra bien, mais peut-être ça mènera à rien. Et puis là, aujourd'hui, c'est un vrai projet qui est produit par une maison de production, qui est soutenu, qui est diffusé. Enfin, tu me disais, la semaine prochaine, tu pars faire la tournée des festivals pour le présenter. Enfin, c'est, ça doit être génial de se dire finalement, quelque chose qui n'a pas été tant que ça réfléchi.
Oui, c'est là où ça interroge.
Bonne surprise.
Justement. En fait, c'était dans une bonne énergie, je crois. Surtout parce que j'ai pas beaucoup dormi pendant 4 mois. Mais en fait, si j'étais passée par un mécanisme de production classique, on va dire.
Il serait encore.
Ah bah oui, j'aurais mis 4 ans pour faire un 12 minutes, quoi. Ouais, donc là, ça fait du bien aussi de se dire, c'est possible. Mmh, en fait, c'est possible. Alors évidemment, personne n'a été payé sur le projet. J'essaie justement d'éviter de le faire.
Bien sûr.
Là, on a trouvé un sens à ça, puisqu'en fait, tous les bénéfices du film sont reversés à une association qui lutte contre la violence faite aux femmes, les excisions, les mariages forcés. Donc, je me suis dit, il faut rassembler aussi tout ce monde-là. Mais ça, on ne pourrait pas le faire systématiquement, hors de question. Par contre, dans cette dynamique-là, c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de gens qui m'ont dit, on te suit parce qu'on a envie aussi d'être en action. De se remettre en action après cette période un peu relou.
Ce qui frappe aussi, c'est à travers ce projet-là, c'est ta polyvalence d'artiste, de pouvoir passer, on a parlé avant d'un documentaire filmé, là tu passes à quelque chose qui est de l'ordre de l'animation, tes premiers projets étaient de la fiction, tu t'interdis aucun format en fait.
Non, c'est vrai. Et là je touche à la réalité virtuelle en plus bientôt. Ouais. Je m'interdis aucun format tout simplement parce que je pars du principe que dans mon métier, il faut que je choisisse le format qui est le plus approprié à la thématique que je veux aborder en fait. Et parler du plaisir féminin, clairement, je me vois pas filmer en image réelle des femmes. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'être toujours sur ce fil un peu poétique. Et il n'y avait que l'animation, en fait, qui me permettait de le faire.
On sent dans tout ton travail que tu n'aimes pas dire les choses directement, en fait, que tu préfères suggérer, laisser une part de mystère et d'interprétation, en fait.
Exactement, ouais.
Ça traverse vraiment tout ton travail, tes clips aussi, où finalement, on peut se positionner différemment sur l'histoire selon comment on la regarde. C'est quelque chose que tu recherches ?
Ouais. Ben oui, puisque je crois que ça fait partie de ma personnalité aussi. Et j'aime bien jouer là-dessus. Et après, ça demande une énorme maîtrise, et ce qui n'est pas le cas à chaque fois, puisque forcément, j'apprends toujours. Et ça dépend de la personne qui regarde. Là où je serai très forte, c'est quand il y aura plusieurs niveaux de lecture et que chacun vraiment pourra identifier précisément ce qu'il a envie d'y voir.
Tout ça est encore en chemin, donc.
Bien sûr.
Dernière pause musicale de cette émission avec encore et toujours une bande originale. On se refait pas, Ananda.
Non.
Cette bande originale, c'est celle de Garçon Chiffon, un film de Nicolas Maury, qui chante d'ailleurs sur ce morceau.
Oui.
Garçon velours.
Tu as pris la beauté du monde et tu t'en es fait un visage. Tu as pris chant des marins et tu en as fait un rivage. Je prends ce que tu me donnes et j'en fais notre amour, un nos visages de velours. Je prends ce que tu me donnes et j'en fais notre amour, un nos rivages et pour toujours. Il a fallu en emprunter des routes, revoir ma terre-mère, le Limousin. Il a fallu en faire taire des doutes. nuage de velours. Je prends ce que tu me donnes et j'en fais notre amour à nos rivages et pour toujours.
Garçon velours, une chanson extraite de la BO du film Garçon chiffon, dont la musique est signée par Olivier Marguerite, qui réalise aussi, tiens, la musique de 369, de ce projet dont on en a un petit peu parlé ensemble auparavant. Un drôle d'objet aussi, entre cinéma, animation, réalité virtuelle, sur lequel tu travailles aussi depuis quelques années,
ouais,
depuis 2018,
longtemps.
Je crois.
Ouais.
Là, on fait le lien avec la séquence d'avant où on parlait de ce film autour du plaisir féminin. Et là, on est en plein aussi dans ça, dans ce sujet-là, avec ce film.
Oui,
enfin,
c'est
ce
ça.
Ce projet, puisque ce film.
Oui, c'est une expérience numérique même.
Une expérience.
On va au-delà. Et justement, c'est une notion qui m'intéresse énormément. C'est de faire vivre une expérience. Et je pense que dans tout ce qui lie aujourd'hui mes projets, nous sommes dans le fait de vivre une expérience, la féminine. Et dans nos âmes déracinées, nous vivons une expérience d'enfant en situation de migration.
Ok. Dimension d'immersion, qui est très forte d'ailleurs, vraiment.
Ouais, exactement. Ouais. Et là, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de s'immerger totalement dans le plaisir féminin et dans ce que...
De façon imagée. C'est un projet avec des masques, des casques de réalité virtuelle, justement.
Oui, ouais, okay. Où il y a une installation associée. Bon, c'est un énorme projet qui coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi
tu
pour
me dis
ça, que
t'as les yeux
long.
Qui.
Oui,
ça
bah,
fait presque
oui.
peur.
Oui, bah, non, parce que je me sens apte à le porter, mais c'est vrai
c'est ça,
que sinon, j'y serais pas allée. Mais c'est. Voilà, c'est surtout que du coup, ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, et ça nécessite... puisque là, il y a un aspect à la fois artistique et puis aussi technologique, qui évolue d'ailleurs en permanence. Et du coup, nous devons... nous l'avons écrit plusieurs fois, donc je me suis d'ailleurs associée avec Nicolas Rochecrest, qui lui vient plutôt du jeu vidéo. De l'écriture scénaristique de jeux vidéo.
D'accord.
Et qui est aussi dans le domaine, donc a bossé chez Ubisoft pendant plus de 10 ans.
Donc là, tu te confrontes à d'autres formes de narration, finalement.
Exactement. Mmh. Et ça, c'est pareil, il faut l'apprendre. Il faut réapprendre, en fait. Mmh. Réapprendre à écrire. Et c'est et tout en prenant en compte, justement, cet aspect expérientiel qui, moi, me fascine complètement, parce que là, pour le coup, ce que je cherche à développer dans mes films habituellement, là, j'ai carrément l'outil qui me permet de le faire, en fait.
T'es dans l'immersion totale.
Exactement.
Ouais, ouais. Alors, ce projet-là, est-ce qu'il y a une projection sur le jour où il sera disponible, je ne sais pas comment dire, et comment, justement, il va être diffusé? Ça sera un jeu vidéo qu'on pourra acheter?
Alors,
ça
il y
va
aura
marcher
plusieurs,
économiquement, parce que j'imagine qu'à un moment, il va falloir vendre quelque chose.
Oui, exactement. Donc, déjà, c'est un projet qui se fait à l'international, comme beaucoup de projets en réalité virtuelle. Donc, nous sommes à la fois... il y a des choses qui sont en train de se dessiner avec Montréal, enfin, le Québec, d'autres avec le Luxembourg. Mon studio d'animation est à Lyon, mes directeurs artistiques sont à Paris, ma production est dans le Finistère. Voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée sur l'ampleur en fait, et l'amplitude de ce projet-là. On a déjà des promesses de diffusion à New York. Pour la Sundance m'a contacté pour voir le film qui n'existait pas encore. Ah, ouais. Oui, voilà. Et donc, voilà, on est quand même sur du haut niveau. Après, ça prend beaucoup de temps, mais logiquement, si tout va bien, dans 2 ans, on pourra le voir. Alors, on pourra le voir, oui, il pourra s'acheter à partir du moment où on a un Oculus Quest, ouais, voilà, on pourra l'acheter à domicile. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait une installation associée et qu'il puisse être dans des centres d'art.
D'accord.
Notamment, je pense au Centre Phi de Montréal, avec qui on est en discussion actuellement.
Des lieux d'art numérique, en fait.
C'est ça, ouais. Et donc, il y aura une installation qui est proche. Du coup, je reviens un petit peu à ma formation initiale en art contemporain. Oui. Lorsque j'ai été formée aux Beaux-Arts, en fait. Oui. Donc, c'est une sorte de mix entre un peu toutes mes compétences, on va dire.
Il y a aussi de nombreux autres projets en cours. On ne pourra sans doute pas tout évoquer. Mais tu travailles aussi sur 2 projets de long métrage depuis aussi plusieurs années. Voilà, ça, c'est pareil. C'est un travail de fond, d'endurance, ce qu'on mène sur plusieurs années, qu'il faut pouvoir avoir l'énergie de relancer, de s'y réatteler. En fait, il y a plein de phases d'écriture, j'imagine, contre la première version. Et la version finale, il y a eu peut-être 10 ou 15 ou je ne sais pas.
Oui, parfois une vingtaine de versions différentes, ouais, pour un long.
C'est assez courant. C'est le temps qu'il faut pour maturer, pour arriver à distiller le projet.
Oui, exactement. Et puis,
retrouver l'essence.
Ben, Nos Monstres Sacrés, par exemple, ça fait des années déjà que je suis dessus. Et j'ai besoin, moi personnellement, après on ne fonctionne pas tous de la même façon, mais j'ai besoin qu'il y ait toujours une rupture entre les différentes versions pour essayer de trouver l'essence même du projet, parce que pour l'instant je n'ai pas accouché de l'œuvre finale, et du coup j'ai eu la chance aussi d'être sélectionnée ou présélectionnée dans des grosses résidences.
Ça, c'est la vie aussi de réalisateur ou de cinéaste, c'est effectivement d'être soutenu dans le cadre d'accompagnement comme ça, où tu vas travailler avec des regards extérieurs qui vont t'aider à maturer aussi les choses.
Exactement, et du coup c'est très enrichissant, et moi dans ces cas-là j'ai besoin vraiment de prendre du recul derrière ce travail-là pour prendre un petit peu la consistance et de savoir quels sont les choix que je fais pour passer d'une version à une autre. Et là, voilà, ça y est, c'est mûr. Donc, je vais bientôt pouvoir écrire la nouvelle version. Sachant que pour l'instant, je n'ai pas de producteur,
c'est
ça, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Et aller à la pêche.
Ouais. Ah,
c'est ça. Et puis là, c'est des budgets. Le long métrage, c'est sans doute l'endroit où les budgets sont les plus conséquents, les plus difficiles à mobiliser.
Oui, c'est vrai que ça demande. Ce qu'on dit, c'est que pour un premier film, c'est au moins 1 million d'euros pour faire un long métrage.
Gloups.
Donc ça paraît beaucoup, et à la fois c'est peu, ouais, par rapport au financement classique d'un long. Mmh. Le mien n'est pas trop gourmand, on va dire. Mais voilà, il faut quand même le financer, quoi.
Ouais.
Et il faut que ça devienne aussi une forme, je pense, de aujourd'hui, de je vais pas dire de priorité, mais de sincérité par rapport au monde aussi qui nous entoure. Il faut qu'il y ait une résonance et qu'on sente que voilà, je suis à la fois légitime à porter ce sujet-là et à la fois que j'ai mon regard soit assez singulier pour pouvoir y aller. Donc ça prend du temps, en fait, et ça prend du temps à maturer, et ça prend du temps pour convaincre aussi les producteurs. C'est normal.
Alors, il y a aussi, on pourrait aussi parler d'un documentaire, un métrage documentaire sur lequel tu planches,
oui,
un court métrage aussi. Voilà, il y a plein de projets. J'espère que tous aboutiront. J'espère qu'on pourra en reparler peut-être ensemble dans une prochaine émission.
La dernière, c'était en 2015. Alors, on se donne rendez-vous.
Dans 7 ans.
Ouais.
Ouais, il y aura peut-être d'autres occasions. Merci en tout cas, Ananda, pour cette discussion.
Merci
pour ton
à
accueil.
Toi.
Ton dernier film, donc le documentaire Nos âmes déracinées, on peut le voir jusqu'au 19 juin en replay sur, sur France 3 TV.
Exact. France Télévisions, ouais.
France Télévisions, ouais. Le site de France Télévisions. On peut aussi aller faire un tour sur ton site, anandasafo.com.fr, je ne sais pas.
Ananda-safo.com.
Voilà. Et voilà, on vous recommande chaudement d'aller voir ce film, Nos âmes déracinées. Un grand merci aussi à Anthony et Joël à l'autre radio pour leur aide et pour le montage de cette émission. On se retrouve, nous, à la rentrée. D'ici là, bon été et bien sûr, faites de beaux rêves.
Merci, au revoir. Les méchants. We'll be right back.